Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le 3 avril 2023. La crise des banques est donc terminée et définitivement enterrée. La Deutsche Bank est toujours là et on parle de 30% de réduction de staff à l'intérieur de la nouvelle méga UBS. C'est en tous les cas les rumeurs qui circulent. Mais peu importe, la crise des banques semble terminée. Et comme le premier trimestre 2023 s'est également terminé vendredi soir, c'est une occasion parfaite pour repartir avec une feuille blanche et se trouver de nouveaux challenges pour se mettre la pression en avril. Le PEP vient de nous donner une première équation à résoudre en annonçant une baisse subite de la production chez la plupart de ses membres. Le baril vient d'exploser pour commencer la semaine. 6% de hausse sur le baril pour commencer la semaine, ça n'est pas ce que l'on pouvait espérer de plus agréable, surtout si l'on avait prévu de faire le plein ce matin. Oui, parce que s'il y a une chose qui est certaine, c'est que la brusque augmentation du prix du baril va être immédiatement répercutée sur le prix de l'essence à la pompe, ce qui n'est jamais le cas dans l'autre sens parce que tu comprends, quand c'est à l'avantage du consommateur, les pétroliers ne peuvent pas réagir aussi vite à cause de qu'ils gagnent moins d'argent et qu'elles se les arrangent moyennement de gagner moins d'argent. En fait, ce qui est intéressant et qui serait à mourir de rire si ça ne coûtait pas autant d'argent, c'est de voir que l'organisation des producteurs de pétrole ont pris la décision de couper la production de 1,16 million de barils par jour pour se prémunir contre une éventuelle baisse de la demande. Alors, pour être très clair, ils préfèrent réduire la production et faire monter les prix plutôt que d'attendre que la consommation baisse pour le faire. Comme ça, il n'y a aucun moment où les revenus sont en baisse. Alors oui, d'accord, ils mettent le consommateur dans la merde parce que c'est plus cher et que ça fait monter l'inflation, mais entre le consommateur qui a moins d'argent et le PEP qui a moins d'argent, le PEP préfère quand même que ce soit le consommateur qui ait moins d'argent. C'est une question de principe, rien de personnel, bien sûr. Mais ce qu'il y a de bien dans l'annonce de cette nuit, c'est quand même que ces derniers jours, le rallye de soulagement que nous avons vécu a tout de même été généré par le fait que certaines banques ne soient pas en faillite et que la contagion SVB Crédit Suisse se soit arrêtée. Mais aussi de par le fait que la crise bancaire a eu du bon pour calmer l'inflation et qu'en plus, les chiffres de l'inflation montraient clairement des signes de faiblesse un peu partout dans le monde. Là où ça pourrait piquer un peu, c'est que lors des dernières publications sur l'inflation, que ce soit en Europe ou aux USA, c'est au niveau de l'énergie que ça se calmait, alors que le prix de la bouffe restait clairement un problème. Donc si j'ai bien tout compris, la bouffe est toujours victime de l'inflation, mais la baisse de l'énergie compensait. Du coup, je ne sais pas si la hausse brutale du baril qui repasse méchamment au-dessus des 80$ pour le WTI et des 84$ pour le Brent est forcément une bonne nouvelle. Et encore, hein, heureusement que le gaz est toujours au fond du trou, parce que sinon ça pourrait devenir un vrai problème. Bon. En même temps, on s'en fout de l'énergie parce que nos gouvernements nous ont pris la tête avec leurs cols roulés, leurs économies d'énergie absolument nécessaires pour ne pas mettre l'économie en difficulté à l'approche de l'hiver. Mais comme là, on est au début du printemps, on peut couper le chauffage. Donc, nous voici à l'aube d'un nouveau trimestre. Celui qui vient de se terminer était censé être catastrophique et s'est transformé en miracle. Les performances depuis le début de l'année sont nettement au-dessus des prévisions de tout ce qui devait se produire et ne s'est pas produit. Ce qui n'est pas forcément le cas de ce qui ne devait pas se produire, mais disons que le Nasdaq qui prend 17% le mois de janvier, le CAC 40 bondit de 13% pendant que LVMH Kering et le Luxe français se traitaient comme des biotech qui auraient découvert une molécule miracle contre la connerie humaine ne faisait pas forcément partie des plans qui avaient été gravés dans le marbre le 31 décembre par les experts en finance que nous sommes. Nous avions commencé l'année en s'inquiétant de ce que pourraient bien faire les banques centrales. Nous avons continué plus profond dans le trimestre en se disant que la hausse des taux allait ralentir et que d'ici la fin de l'année, il se pourrait même que les taux baissent. Ce qui est d'ailleurs une des raisons pour la surperformance de la tech. On anticipe la baisse des taux à venir. Perspective de baisse des taux qui a même été amplifiée par la crise des banques qui a soudainement fait craindre un resserrement des conditions de crédit. Et vu que les banques allaient commencer à rechigner un peu plus à prêter de l'argent au peuple, puisque lorsqu'il s'agit de difficultés, si l'on doit choisir, et les banques préfèrent quand même que ce soit le peuple, les autres qui soient en difficulté, là aussi à cause de l'argent, leur argent. Sauf que si là tout de suite le pétrole repart à la hausse et ceci de façon durable, il se pourrait que cela ait des implications directes au niveau de l'inflation. Oui, parce que j'y connais pas grand chose, mais il faudra tout de même retenir que tout le monde ne roule pas en Tesla et que même ceux qui roulent en Tesla sont indirectement victimes de la hausse du baril puisque les producteurs d'électricité s'alignent souvent sur la hausse des pétroliers. Oui, à cause de l'argent aussi. Nous nous retrouvons donc devant un problème ubuesque. On aimerait bien que les banques centrales arrêtent de monter les taux parce que ça la fout mal au niveau de la consommation et que l'on risque de se retrouver en récession à un moment ou un autre. Goldman Sachs vient d'ailleurs de monter sa probabilité de récession avant la fin de l'année de 25 à 35%. Mais si l'on arrête de monter les taux et que le pétrole explose, le risque d'inflation revient au galop. Et du coup, il se pourrait que les banques centrales révisent une nouvelle fois leur copie. Et si les taux remontent encore une fois, on va se poser des questions sur les raisons de la hausse de la tech et sur le fait que le poids de la dette du citoyen moyen risque de peser un peu plus lourd encore. Et encore une fois, je ne suis pas un surdoué en économie, mais je ne suis pas certain que ce genre de situation soit optimale pour une économie florissante et des marchés qui montent. Finalement, la seule chose à laquelle on peut se raccrocher, c'est le fait que le mois d'avril est généralement un très bon mois pour les bourses mondiales, juste avant le sell in May and go away, et puis que ces derniers temps, lorsque tout paraissait évident que ça allait partir en cacahuète, c'est à ces moments-là que les marchés se sont montrés les plus forts, et là, nous sommes exactement dans un de ces moments. Si tout est aligné pour que ça n'aille pas bien, il y a bien des chances que ça se passe plutôt pas mal. Et c'est sur ces bonnes paroles qui sont pleines d'ambiguïté et de sous-entendus que nous allons interrompre cette analyse qui ne sert pas à grand-chose pour se concentrer sur les fêtes du jour et de l'instant présent. Ce matin, l'Asie est partagée, le Japon est légèrement en hausse, tout comme la Chine, et Hong Kong est en baisse de 3 fois rien. La croissance du secteur manufacturier chinois s'est ralentie en mars, selon les dernières données économiques. Pendant ce temps, la production est restée médiocre en raison de la faiblesse de la demande internationale, et alors que le boom économique post-Covid semble s'essouffler. Salutations amicales au secteur du luxe européen depuis la Chine. Le PMI chinois est sorti à 50 en mars, restant à peine dans la zone de croissance, et reculant par rapport au pic de 51,6 attendu au mois de février. Les attentes étaient placées bien plus haut, à 51,7. Bref, le rebond post-Covid n'a pas l'air de se prolonger plus que ça. Pour le reste, le sujet du jour est évidemment le baril qui revient sous les 80$ à l'instant et se traite à 79,91. Mais préparez-vous à que l'on vous parle du sujet dans les prochaines heures, même si récemment on avait complètement oublié l'existence du pétrole. Le thème revient en force ce lundi matin. L'or est en repli à 1967$, n'ayant toujours pas réussi à s'établir durablement au-dessus des 2000$ et ne parvenant toujours pas à s'imposer comme valeur refuge contre l'incapacité des banques à faire correctement leur job. Pendant ce temps, le Bitcoin se traite à 27 760$. Dans les nouvelles du jour, on commencera par les ventes de Tesla qui ont été publiées cette nuit. Le fabricant de voitures électriques a vendu 423 000 voitures pour le premier trimestre 2023. C'est en dessous des attentes. Le consensus se trouvait autour des 432 000, mais la plupart des analystes bullish sur le sujet sont déjà sortis du bois pour annoncer que le consensus de 432 000 n'était pas le vrai consensus, parce qu'il y a le consensus non officiel qui, lui, est plus exact, qui s'attendait à 421 500 véhicules vendus. Du coup, à 423 000, c'est mieux que les vraies attentes, mais moins bien que les fausses attentes. Non, je sais, ce que je dis peut paraître complètement con, mais je vous assure que visiblement, dans le monde merveilleux de chez Tesla, on a réussi à créer deux types d'attentes. Un, celle qui nous arrange pas, et deux, celle qui nous arrange. Bon, en même temps, on peut comprendre les analystes qui s'accrochent au rideau pour ne pas que le soufflet retombe, puisque Tesla est quand même en hausse de 68% depuis le début de l'année. Ça serait ballot de s'arrêter en si bon chemin. On notera aussi un article du Wall Street Journal qui annonce que McDonald's devrait annoncer des licenciements importants, mais principalement dans les bureaux. On voit que les restructurations n'existent pas que dans la technologie et que l'ensemble de l'économie commence à être touchée. Ça tombe bien, on est à 4 jours des publications des chiffres de l'emploi US, ça va nous donner un sujet de conversation. Autrement, on parle de plus en plus de la problématique du plafond de la dette. Oui, maintenant que la crise des banques est terminée, va bien falloir trouver autre chose pour se faire peur et à voir comment les politiques ont envie d'en parler, le sujet risque de piquer un peu. Pour le moment, les intervenants et autres investisseurs ne semblent pas vouloir croire que l'on ne puisse pas trouver de solution, mais qui sait, un non-accord et un défaut de la dette pourrait être marrant. Juste avant la saison du Salid. Mais, and go away. Du côté de la série Netflix UBS Crédit Suisse, le procureur fédéral a ouvert une enquête sur la fusion d'il y a deux semaines. Le procureur Bernois examinera, je cite, les violations potentielles du droit pénal suisse par des fonctionnaires, des régulateurs et des cadres de deux banques qui ont convenu d'une fusion d'urgence le mois dernier. Ce qui paraît totalement irréel, bien sûr. Comment imaginer que tous ces gens d'une intégrité intègre phénoménale nationale puissent avoir violé la loi, ne serait-ce qu'un tout petit peu, j'en tomberais de ma chaise. Et puis pour terminer, comme tous les deux jours, Nouriel Roubini a publié un article qui nous explique que l'on va tous mourir de stagflation ou d'étouffement à cause de la dette et qu'ensuite le S&P va perdre 30%. À ce stade, je crois qu'il n'est plus nécessaire de détailler ses dires, c'est toujours la même chose et à la fin ça finit mal et c'est les bears qui gagnent. Pour le moment, les médias se concentrent principalement sur la brutale hausse du pétrole que personne n'avait vu venir, mais les analystes sont déjà de sortie et mettent en garde contre les intervenants face à l'inévitable menace de la hausse du baril et du fait qu'ils pourraient bientôt aller chercher les 100 dollars. Côté chiffres, nous aurons le CPI en Suisse, des PMI un peu partout et des ISM manufacturiers ou des ISM manufacturiers PMI aux USA. Il y aura aussi des dépenses liées à la construction et on attendra vendredi avec impatience pour voir si les créations d'emplois ont enfin chuté drastiquement pour que l'on puisse dire et voir que la Fed a fait du bon boulot. Pour le moment, les futurs sont en baisse de 0,34% parce que, chut, ne dites à personne, le pétrole est en train de monter. Je vous souhaite une très belle journée ainsi qu'un très bon début de semaine et je vous retrouve demain comme d'habitude.